Les éditions Télém présentent un enregistrement des Fantômes de Versailles, tome 1, de Jacques Forjas, lu par Jean-Christophe Acquaviva. À Catherine. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Cardinal de Retz. Préambule. Nous étions en l'an 1673, et en ce temps-là, Versailles n'était pas encore Versailles. Il n'était pas le palais que toute la noblesse d'Europe voudrait approcher, mais le champ de bataille le plus ruineux et le plus décrié de Paris. Car s'exiler de la capitale pour vivre au milieu des bois et marécages, ce n'était plus du caprice, c'était de l'effronterie. Le lieutenant-général de police, Monsieur de Larigny, avait noté dans ses archives que, dès 1662, le Vau avait entouré le château d'un mur construit en pierre à l'italienne et que le nôtre avait commencé à tracer les grands axes du nouveau jardin. Les distraits ne voyaient dans ces travaux que le désir d'améliorer le relais de chasse de Louis XIII. Mais Monsieur de Larigny avait vite compris qu'il ne s'agissait pas de respecter la mémoire du feu roi. Louis XIV était en train de lancer le plus grand de tous ses projets. Et le temps ne lui donna pas tort. Le roi aller vivre à Versailles. Chapitre 1. 22 mars 1673. Elle l'avait repéré rue Pastourelle. L'homme avait baissé la tête et fait semblant de rajuster le revers de ses bottes. Elle accéléra le pas et tourna rue d'Anjou. L'homme lui emboîta le pas. Il était grand. Le corps raide. Elle bifurqua rue du Perche et, à l'angle de l'immeuble, se mit à trottiner. Encore une erreur, se dit-elle. Cette rue est trop étroite, bien trop courte. Une vraie souricière. Sa poitrine se souleva, l'air entra dans ses poumons. Sa jupe serrée la gênait et ses escarpins en soie pervenche la blessaient. Pourquoi était-elle sortie? Pourquoi avait-elle désobéi? Pourtant, elle savait qu'on la guettait. Elle se glissa derrière un portail et, par la petite grille en fonte qui ajourait le bois, elle surveilla la rue. Elle attendit. Pendant ces longues minutes, elle retrouva espoir. Elle s'était peut-être trompée. Son cœur s'était calmé. Elle patienta. Chaque seconde, l'éloignait du danger. Pourquoi s'usait-elle à toujours craindre le pire? Un carrosse gris crissa sur les pavés et frôla le portail. Surprise, elle fit un pas en arrière. Il s'engagea dans la cour de l'hôtel. Elle n'eut pas la curiosité de vérifier qui le guidait. Quand l'attelage ralentit sous les chaînes du parc, elle frissonna. Dans son dos, elle sentit une présence, mais il était trop tard. Elle ne poussa aucun cri, n'esquissa aucun geste. Elle savait qu'il était là. Elle fixa une dernière fois la rue en ouvrant grand les yeux. Puis une fulgurance lui brûla la nuque. En guise d'adieu, elle leva la tête, aperçut un ciel bleu, sans nuages, et s'affaissa en inondant sa pèlerine d'un flot de sang. La jeune femme avait été découverte par le cocher de l'hôtel particulier, qui avait alerté à son tour l'intendant. Ils avaient couru prévenir la police du guet quand ils tombèrent sur deux inspecteurs du Châtelet, par hasard en filature dans le quartier. Sans respecter la règle selon laquelle la police du guet devait intervenir en premier, l'inspecteur Laruche et l'inspecteur Torsac ordonnèrent qu'on les menât sur les lieux du crime. Le cocher et l'intendant, que la subtilité des hiérarchies de la police laissait indifférents, les conduisirent jusqu'au carrosse gris fer dont la portière était restée grande ouverte. L'intendant, qui dans son affolement n'avait néanmoins pas oublié le sens de ses responsabilités, annonça que le duc de Rolignac, dépêché dans ses terres du Berry, serait malheureusement absent les trois prochaines semaines. Mais les inspecteurs lui intimèrent de se taire. La scène de crime qui s'offrait à leur